Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthaz.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthaz.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthaz, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 2 octobre et les 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant par téléphone avec Catherine Legros, accompagnante à la scolarité et avec l'association Naître et Grandir. Ce mercredi et ce jeudi, elle donnera des ateliers et une conférence à Florac et Amande sur l'adolescence, entre autres. Enfin, et leur devoir, ça va être marrant. On en parle avec elle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Zina Majorelle en studio. Elle est chef du programme Petite Ville de Demain pour la Comcom Gorge-Causse-Cévennes. On parlera de ce programme avec elle tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va pour l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthaz.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthaz. Ça me désespère, dans quel monde vit-on ? Après Paris la semaine dernière, c'est à Rennes que des chants homophobes ont été entonnés ce week-end dans un stade, sans que rien ne se soit passé. Alors je sais pas vous, mais à un moment, peut-être que des décisions doivent être prises. Lorsqu'il y a violence physique, bim, interdiction de stade ou carrément le huis clos. Eh bien là, il y a violence, certes verbale, mais ça n'en est pas moins grave, bien au contraire. Croisons les doigts pour que cette fois-ci, des sanctions soient prises et de vraies, pour que des abrutis de personnes se taisent. J'ai comme l'impression que c'est peine perdue et on a marre. Quand on est con, on est con.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Georges Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire, c'est clair. Et si tout va bien, nous sommes par téléphone avec Catherine Legros, bonjour.
Tout va bien Ben, bonjour à tous.
Vous êtes accompagnante à la scolarité et vous donnerez ce mercredi des ateliers à Florac et une conférence à Mende jeudi, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord amener à devenir accompagnante à la scolarité ?
Alors en fait, j'ai toujours voulu être prof et puis la magie de l'orientation, j'ai fait de la finance. Mais très vite, mais tout le temps de ma scolarité, j'ai donné du soutien scolaire. Et puis après quelques années dans la finance et l'expertise comptable, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout qui m'animait. Et quand j'ai attendu mon premier enfant, je me suis dit, allez, il faut y aller là, il faut aller vers ce que le cœur nous guide. Mmh. Et il y a un peu plus de 20 ans, c'était assez confidentiel à l'époque. Je me suis formée à la pédagogie Montessori à Paris et j'ai enseigné dans une école. Et puis, petit à petit, j'ai trois enfants et l'aîné s'est dit « Ah, ça t'amuse, on va pas trop te faciliter la tâche. » Et il a souffert de troubles d'apprentissage, d'un gros déficit d'attention. Et quand il est arrivé en CE2, dans ces classes-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre d'enfants impressionnants qui venaient à l'école à reculons, qui souffraient beaucoup, et des parents aussi. Et là, je me suis dit, c'est vers ça que je vais aller, en fait. Donc je me suis formée ensuite aux intelligences multiples. J'ai eu la chance d'aller au Canada, également en gestion mentale, à la pédagogie de nuit, alors sur 20 ans. Et surtout, j'ai accompagné des centaines d'enfants, et depuis une quinzaine d'années, maintenant c'est en classe entière, du CP à l'enseignement supérieur. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants et les jeunes étaient avides de savoir comment leur cerveau fonctionnait. Mmh. Il y avait des choses qu'on savait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant. Et que quand on leur parlait d'eux, quand on leur montrait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, qu'on parlait du stress, de la mémoire, ça leur redonnait de l'envie, de la confiance et de la motivation. Et puis surtout, la super bonne nouvelle pour nous tous, quel que soit notre âge, c'est que le cerveau est plastique. Ça veut dire que toute sa vie, on peut devenir plus performant, surtout à partir du moment où on y croit. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est redonner le sourire aux enfants, aux ados, qui l'ont un peu perdu, et être humblement un petit allumeur d'étincelle avec tous les profs que je forme aussi maintenant depuis une dizaine d'années.
C'est ça, c'est un triptyque. Vous formez les profs, vous accompagnez les parents et les enfants. C'est vraiment un tout.
C'est atypique, en fait, oui. Et ça s'est fait progressivement, en fait. Très vite, je me suis d'abord rendu compte que j'avais des choses à partager avec les parents, parce que en tant que mère aussi, moi, je souffrais aussi des difficultés de mon aîné. Et puis, je me rendais compte que je prenais beaucoup de place et que finalement, quelquefois, je savais mieux les choses que lui, ou je prenais trop de place. Donc, tout ce travail de formation m'a montré qu'est-ce qu'il fallait pour bien mettre dans sa tête. Que l'affectif était tellement important, donc comment créer un petit sas de décompression après l'école. Et ça, le partager aux parents et voir comme ça fonctionne, comme c'est efficace, les petites choses qu'on peut intégrer à la maison, comme par exemple un tableau effaçable pour permettre à notre enfant de bien vérifier ce qu'il a compris, que ce soit lui qui parle et non nous, parce que nous on parle beaucoup trop quand on travaille avec nos enfants. C'est tout ça aujourd'hui que j'ai à cœur de partager avec les parents et qui fonctionne super, super, super bien.
Ouais, c'est passionnant. Enfants confiants, parents sereins, c'est le titre de votre livre, Donner des clés. Ouais. À partir du moment où l'enfant a confiance, en fait, c'est vraiment le centre de votre travail, redonner la confiance à l'enfant.
En fait, on pourrait dire que c'est le détonateur. En fait, si on se pose tous la question et si on se met un peu à la place d'un enfant, d'un ado ou même d'un adulte, quand on n'y croit pas, posez-vous même vous la question, tous ceux qui nous écoutent, quand vous ne croyez pas à quelque chose, ça veut dire que vous ne vous croyez pas capable, vous préférez ne pas y aller. Parce que vous vous dites intérieurement, vous ne vous le dites pas, ou inconsciemment, j'y vais pas, comme ça il n'y a pas trop de risque en fait. Et les enfants qui souffrent d'une estime d'eux-mêmes, donc ceux qui sont un peu parfois fracassés par les résultats scolaires ou par par leurs pensées qui se jouent contre eux, ils vont encore moins, parce que s'ils n'y arrivent pas, ça va encore plus abîmer leur estime d'eux-mêmes. Donc il faut d'abord que j'ai envie de m'engager, et que même si je me trompe, c'est pas catastrophique, puisque la vie elle est faite pour apprendre. Mais il y a plein de jeunes ou d'adultes pour qui c'est catastrophique de se tromper. Un peu culturel aussi chez nous.
Ouais, c'est vrai.
Donc, bien sûr, ça ne suffit pas, mais pour apprendre, il faut s'engager. Si je subis, il ne se passe rien dans ma tête. Donc, la première des choses, c'est que j'y aille. Et après, une fois que j'ai envie d'y aller, que je me sens capable, on va réfléchir ensemble comment faire, quelles sont les bonnes stratégies pour réussir. Et la super bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent et à transmettre à nos enfants, nos ados, c'est que les jeunes qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui passent des heures et des heures à travailler à la maison, parce que là, il faudrait s'inquiéter. Ce ne sont pas ceux non plus qui ont le plus de neurones à la naissance, comme me disent souvent certains enfants, c'est ma sœur qui a tout pris à la naissance. Mais ce sont bien ceux qui sont aussi présents à ce qu'ils font. Quand ils font quelque chose, ils sont complètement dans ce qu'ils font. Et ça, c'est un sujet central aujourd'hui aussi. Parce qu'on est quand même tous bien perturbés par de nombreux distracteurs.
Ça, c'est sûr. Alors, mercredi et jeudi, avec Naître et Grandir, vous avez donné donc Atelier à Florac et une conférence jeudi à Mende. L'adolescence sera au cœur de votre propos. Moi, je pensais que ça avait changé, que les jeunes avaient moins de devoirs. Mais finalement, carrément pas. Est-ce qu'on leur donne trop de choses à faire à ces jeunes ?
Eh bien, je dirais que ça dépend aussi un petit peu de l'environnement familial aussi, parce que quelquefois aussi, on met une pression, ça dépend de l'histoire de chacun en fait aussi, je trouve. Alors ça dépend de l'environnement scolaire. Il y a quand même encore pas mal de devoirs, et puis il y a cette fameuse, notre structure qui est vraiment liée aux notes. Et quand les enfants passent de l'adolescence au lycée, et quand il faut rentrer parcoursup et que tout est un peu basé sur les notes, donc il y a petit à petit une pression qui s'installe. Donc une pression environnante en fait. Mais c'est vrai que ça dépend quand même aussi de notre histoire familiale et de la façon aussi dont les parents prennent un peu aussi de hauteur. Ça ne veut pas dire que les devoirs, le travail, les résultats scolaires ne sont pas importants. Mais je pense que plus on prend un peu de hauteur, plus on permet aussi à nos enfants d'aller se découvrir dans plein d'autres domaines. On sait aujourd'hui que les arts, que la musique, que le sport sont des facteurs extrêmement importants de plasticité cérébrale, mais aussi de bien-être. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Et ça permet justement de voir nos enfants dans leur entièreté. Et c'est pas combien tu es intelligent, mais plutôt comment tu es intelligent et ils te laissent te déployer. Et les résultats vont être encore plus favorables. Mais c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de travail scolaire quand on doit accompagner un enfant qui a des troubles d'apprentissage ou des difficultés d'apprentissage. Les troubles, ils sont durables. Ça veut dire qu'il y a un diagnostic qui est posé de troubles 10 ou d'autres troubles. Les difficultés, elles peuvent être passagères. Et dans ces cas-là, si l'enfant se décourage, il est en classe, mais il perd beaucoup. Comme il perd beaucoup, il ne se souvient plus trop ce qui s'est passé. Donc derrière, il faut reprendre. Et puis tout le monde s'épuise. Et puis là, je finis par penser que je ne suis vraiment pas intelligent. Donc je dirais que c'est plutôt là où il y a beaucoup de temps à passer. Ce n'est pas tant dans les devoirs, mais c'est dans la fuite qui se passe en classe. Et qui fait perdre, en fait, quand les jeunes ne sont pas attentifs, ils rentrent le soir et il ne reste pas grand-chose dans leur tête. Et moi, c'est vraiment aussi tout ça, mon travail. C'est comment être pleinement présent quand je suis en classe pour avoir du temps pour faire autre chose quand j'arrive à la maison.
On peut entendre, moi ça a tendance à m'énerver, mais bon, que c'était mieux avant, qu'avant les jeunes avaient des valeurs ou je ne sais quoi. Alors j'ai vraiment du mal à me le dire, j'ai l'impression que ça ne change pas. Il y aura toujours une multitude de caractères chez les jeunes. Il y en a qui adorent les devoirs, il y en a d'autres qui n'aiment pas, que sais-je. En tout cas, in fine, est-ce qu'on peut faire aimer les devoirs à quelqu'un qui n'aime vraiment pas ça ?
La nature humaine est quand même faite, elle a besoin de motivation, de sens. Les enfants, c'est dans leur nature d'apprendre et d'avoir cette curiosité. Ils ont surtout aussi besoin d'amour, nous aussi. et on voit bien que les enfants qui aiment apprendre et faire leurs devoirs, c'est ceux qui ont des bons résultats et c'est quasiment automatique. Et ceux qui arrivent à faire seuls, et ils ont envie parce que c'est... C'est ce fameux shoot de dopamine, de neurotransmetteurs qui j'ai de la gratification, j'ai des retours positifs des adultes qui m'entourent. Et ceux qui n'aiment pas, le constat, c'est ceux qui peinent, c'est ceux qui, dès le CP, le CE1, ont du mal à faire leurs devoirs. Forcément qu'ils n'aiment pas, parce que ça prend des plombes, comme ils disent. Parce qu'on se dispute à la maison, parce que tout le monde est épuisé, et puis que les parents se transforment en parents d'élèves, et il n'y a pas de jugement, moi aussi, je me mets de... Et on perd un peu toute notre substance de parents, et donc là, comment je peux aimer si, et ça, tout, c'est aussi tout mon travail, c'est de mettre dès le CP où on commence déjà à avoir un petit peu de devoir, comment on met en place des rituels assez doux, comment on crée un sas de décompression quand on rentre à la maison, et qu'on respire, nous, en tant que parents, pour prendre un peu de hauteur. Et si on met en place tout de suite les bonnes stratégies pour permettre aussi à notre enfant, dès que c'est possible, de faire un peu tout seul, que ça prenne pas toute la place, que ça devienne pas obsessionnel, et ben petit à petit, ils vont aimer les devoirs comme le reste, puisqu'en fait, ils auront de la gratification et de la réussite.
Et ce sera tout à fait l'objet de votre atelier. Donc, ce sera ce mercredi à partir de 14h30 au foyer rural. Donc, c'est ouvert aux parents et aux ados aussi. Hein.
Alors, c'est surtout ouvert aux parents. D'accord. Et aux parents d'enfants de primaire et d'ados. Mmh. On va vraiment travailler sur les deux. On va vraiment passer un bon moment. Je viens avec du matériel, des choses concrètes. Et on va voir du retour des enfants et en primaire et au collège, à la maison, déjà un tout petit peu notre posture pour les accueillir, comment créer des rituels et ensuite concrètement, comment les aider efficacement à prendre une leçon, comment quand ils attaquent un exercice, on peut faire pour pas prendre trop de place et surtout comment travailler la consolidation et la réactivation. Il y a beaucoup de parents qui s'épuisent et d'enfants aussi. Parce qu'on ne tient pas assez compte que pour mettre une information dans sa tête à long terme, il faut la réactiver. Et il faut la réactiver des petites piqûres de rappel en espaçant avec le temps et il faut des heures de sommeil. Mmh. Donc on va voir ensemble comment on peut sauvegarder ce qu'on vient d'expliquer pour pas être obligé de le réexpliquer 5 jours après parce que tout le monde n'en peut plus. Mmh. Et donc j'ai plein de petites choses à partager, notamment des petites flashcards, des choses que je pourrais partager aussi aux parents que j'ai faites. Et vraiment, ce sera avec beaucoup de joie qu'ils repartiront, j'en suis sûre, avec le sourire.
Hey, ce sera ce mercredi au foyer rural de Florac à partir de 14h30. C'est gratuit, évidemment, et pour vous inscrire aux différents
auditrices. Oui, on vous attend nombreux.
Naître, grandir, 48@gmail.com. Et votre conférence de jeudi, ce sera au lycée Chaptal de Mende à partir de 19h30. Là, ce sera la motivation et la confiance qui seront au centre.
Ouais, et le travail scolaire. Et là, il y aura des ados et des lycéens qui seront présents. Mm-hmm. Oui, je m'adresserai à eux également. Donc, si des parents nous entendent et ils ont un grand ado ou un lycéen, qu'ils peuvent tout à fait venir avec lui, je m'adresserai aussi beaucoup à eux et pour leur dire comment faire pour être efficace et comment faire pour passer moins de temps dans son travail et même dans la vie en général quand on se met à faire quelque chose.
Et votre livre « Enfants confiants, parents sereins » toujours disponible ?
Toujours disponible, il sera disponible à la conférence, il est en édition nationale, donc vous pouvez soit le commander, soit aller chez votre libraire, s'il n'est pas dispo, il peut l'avoir assez rapidement, puisque c'est un diffuseur national très performant. Mmh. Et dans le livre, il y a 3 grandes parties. La première, c'est comment nourrir la confiance et l'estime de soi de nos enfants, et par ricochet la nôtre aussi. La deuxième, c'est comment stimuler notre attention, notre concentration et surtout, bien sûr, celle de nos enfants, que ce soit en classe ou à la maison. Mmh. Et la dernière, elle est purement sur les apprentissages, comment mettre dans sa tête, j'aime bien parler de la tête aux enfants, comment apprendre, comment bien mémoriser avec vraiment des choses extrêmement concrètes et accessibles. Et vraiment, même les jeunes, parce que mon fils, donc qui a 28 ans aujourd'hui, témoigne tout au long du livre, en début de chapitre, pour expliquer un petit peu son parcours de l'intérieur et le fait qu'il va très bien aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'anecdotes de tous les élèves, les centaines d'élèves que j'accompagne depuis 15 ans et qui permettent aux parents de s'y retrouver parce que ça nous fait souvent sourire. On a l'impression que c'est nos enfants qui parlent et ils nous expriment un peu leurs besoins. Et même si certains grands adultes n'ont pas d'enfants, ils me disent souvent, mais ça me parle à moi-même, parce que quelque part, on a tous besoin dans sa vie de nourrir notre confiance, de stimuler notre attention et puis de continuer à apprendre. Donc en fait, c'est un livre assez accessible, quel que soit notre âge, en fait, finalement.
Et je mets tous les liens utiles sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Catherine.
Merci Ben, et belle journée à vous tous. Et je me réjouis de quitter ma Haute-Savoie pour arriver en Lozère demain.
Et ce sera mercredi au foyer rural de Florac à partir de 14h30. C'est gratuit pour vous inscrire, naitregrandir48@gmail.com. Et la conférence, ouais, c'est jeudi au lycée Chaptal à partir de 19h30. Excellente journée à vous et bon séjour en Lozère.
Et un grand merci à Naître et Grandir. Et
évidemment, grand merci à eux. On les salue. À très bientôt. Au revoir, Catherine.
À bientôt. Au revoir.
Dans un instant, on parle des petites villes de demain avec Zina Majorel. Eh ben, on écoute Belle Petite Ville, les compagnons de la chanson. C'est parti.
Belle, c'était la vie belle. C'était la vie douce, la vie dans la mousse, la vie si belle. Dans ma petite ville belle. Et je me rappelle mon premier soleil, mes premières amours, mes premiers beaux jours. Je revois sur la place les amis qui passent et s'assoient. Il ne manque personne le soir en automne devant. J'ai vu près d'elle mon premier soleil, mes premières amours, mes premiers beaux jours. Oui, sous son ciel, oui, c'était la vie belle. C'était la vie douce, la vie dans la mousse, la vie si belle. Dans ma petite ville belle, lorsque les hirondelles venaient rapporter le soleil du printemps sur nos jeunes enfants. Le premier banc d'école, la cloche qui sonne le retour. Et là-bas sur la porte, maman nous apporte le pain de l'amour. Ils sont là-bas.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et on vient d'écouter Belle Petite Ville, les compagnons de la chanson, et transition toute trouvée puisque nous sommes ce matin avec Zina Majorel. Bonjour.
Bonjour Ben.
Bienvenue, tu es la chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler de ce que c'est que ce programme, des particularités de notre territoire, de ses atouts, de ses forces, mais aussi de ses points faibles et ses facteurs de fragilité. Waouh, quel programme. Mais d'abord, ton avis assez personnel, ça va, il fait quand même plutôt bon vivre dans nos petites villes.
Ah oui, ça je le confirme et j'en suis la preuve parce que je suis installée depuis pas très très longtemps et j'ai envie de rester sur ce territoire, donc oui.
Bienvenue au club. Merci. Alors, commençons par le commencement. Hein. On se disait juste avant de prendre cette antenne que toi, si j'ai bien compris, tu t'occupes spécifiquement de 4 communes.
C'est ça, effectivement. Donc, comme tu disais, je suis chef de projet Petite Ville de demain. En fait, je suis rattachée à la communauté de communes, mais j'accompagne plus précisément 4 communes de la Comcom, donc qui sont Florac, Hispaniac, Florac Trois-Rivières, Hispaniac, Gorges-Étain-de-Cos et Méruès.
Ça fait quand même un petit peu de boulot tout ça.
Oui.
Bah justement, commençons par les points forts, les atouts sur lesquels on peut compter pour justement ces 4 petites villes.
Mm-hmm. Bah, je pense que avant tout, c'est sûr que ce qui caractérise vraiment notre territoire, c'est ses paysages, sa nature, qui sont ses atouts indéniables de la Lozère. Et je pense que c'est ce qui caractérise vraiment notre territoire et ce qui en fait, comme on vient d'en parler, ce qui en fait un cadre de vie exceptionnel. Mm. Et c'est vrai que pourtant, un cadre de vie exceptionnel ne suffit pas forcément pour que le territoire soit attractif ou surtout le reste, en fait, et notamment pour l'accueil et l'installation de nouvelles populations. Et clairement, il est nécessaire d'avoir des équipements et des services de qualité et surtout de pouvoir apporter des réponses à toutes ces questions environnementales, sociales et économiques, bien sûr, qui s'imposent à nous aujourd'hui et qui évoluent très vite. Donc, c'est pour ça que l'attractivité, c'est d'ailleurs l'enjeu en fait majeur qui est ressorti du diagnostic qu'on a pu réaliser dans le cadre du programme Petite Ville de Demain. Et d'ailleurs, toutes les quatre communes lauréates de ce programme ont trouvé un consensus très rapidement autour du principe qu'il est nécessaire de travailler à ce que ce territoire soit un territoire vivant à l'année et pas seulement justement en période touristique.
Ouais, ça c'est sûr, c'est pas évident tout le c'est temps. Sûr. C'est sûr que la population, par exemple, à Florac, elle passe de 2000 habitants à quasi 10 000 l'été, c'est un truc de fou. Justement, tu l'as dit, communauté de communes ici a été lauréate de
alors, les quatre communes.
Donc les quatre communes ont été lauréates. Alors, quelle est l'origine de ce projet pour qu'on comprenne un peu vraiment bien de quoi il s'agit?
Bien sûr. Alors c'est un programme qui a été lancé à l'échelle nationale par l'État donc en octobre 2020 et pour une durée de 6 ans. En fait, l'idée c'était de se caler sur une mandature. Et l'objectif de ce programme en fait est d'accompagner les communes de moins de 20 000 habitants. Donc là on est clairement dans la cible. Qui n'appartiennent pas à un grand pôle urbain et puis mais qui sont soumises à des facteurs de fragilité. Et l'objectif, donc, c'est vraiment de pouvoir renforcer les moyens de ces collectivités pour les accompagner à bâtir et concrétiser leurs projets de territoire. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 1600 communes en France qui sont petites villes de demain, dont plus de 1200 qui sont des communes considérées comme rurales, dont on fait partie. Et ce programme-là, ce qu'apporte essentiellement ce programme, c'est surtout un soutien en ingénierie, justement pour pouvoir donner aux collectivités les moyens de définir, comme je disais, et de mettre en place leurs projets de territoire. Et donc ça passe par la mobilisation des acteurs de l'ingénierie sur le territoire, un bon nombre d'acteurs et de techniciens sur le territoire qui peuvent apporter leur aide, par le renforcement des équipes, et notamment via mon poste et aussi le poste de manager de commerce, et puis aussi l'apport d'expertise grâce à des financements d'études et de diagnostics qui permettent d'affiner les stratégies et les projets sur chaque commune.
Alors, rentrons dans le concret, tu parlais du diagnostic, justement. Ouais. Quels sont les facteurs de fragilité et les points faibles de ces quatre communes? Si tant est, est-ce que ce sont les mêmes déjà sur les quatre communes ou les problématiques sont différentes?
Elles se recoupent. C'est vrai que ça va être plus fort chez certaines communes que dans d'autres, mais elles se recoupent. C'est vrai qu'il y a un diagnostic qui peut être global, en tout cas sur ces quatre communes. Je pense que ce qui ressort, les principaux enjeux clés qui ressortent justement de ce diagnostic, c'est qu'il y a une forte demande de logement à laquelle les communes ont peine à répondre. C'est pas toujours facile aussi de maintenir et de pérenniser l'existant, et dans l'existant j'entends tout ce qui est les commerces, les structures d'accueil de groupes, la qualité paysagère et environnementale, et puis la convivialité, le vivre ensemble qui est quand même très présent sur le territoire. Il faut pouvoir aussi inverser la tendance et se concentrer aussi sur les centres-bourgs. Il y a beaucoup de choses à faire dans les centres-bourgs. Essayer de ne plus trop construire en dehors des centres-bourgs, mais essayer de créer les conditions qui amèneraient à revaloriser les cœurs de bourg. C'est vraiment le cœur de ce programme, la revitalisation des centres-bourgs. Et puis essayer de trouver aussi des partenariats ou des modèles économiques pour investir dans le patrimoine bâti historique. C'est quand même aussi ce qui caractérise beaucoup notre territoire. On a beaucoup de sites patrimoniaux qui sont exceptionnels, mais pouvoir les valoriser, et ça c'est important. Et puis bien sûr, il y a tous les enjeux autour de la transition écologique et énergétique, et là à différentes échelles, on voit tout ce qui est lié aux ressources du territoire, que ce soit l'eau, le bois, là il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La consommation d'énergie, ça aussi c'est un point très présent, enfin dominant. Et puis la mobilité aussi, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir apporter que les choses évoluent sur ce point-là, sur la dimension de la mobilité.
On y reviendra tout à l'heure sur la mobilité, qui est un enjeu important. Alors justement, la revitalisation des centres-bourgs, ça fait 5 ans que je travaille à la radio, ça fait 5 ans que j'en entends parler.
Oui.
Donc tu l'as dit, c'est bien là un des objectifs. Concrètement, allez, prenons une ville comme Florac, qu'est-ce qui est mis en place concrètement comme action pour revitaliser le centre-bourg?
Beaucoup de choses, beaucoup de projets, projets ambitieux. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est vrai que j'ai pas parlé des orientations stratégiques qui ont été définies justement du constat de ces enjeux-là. Là, l'idée, il y a vraiment si je peux faire juste une petite aparté là-dessus, c'est l'idée. On a défini aussi quatre orientations stratégiques. Ça concerne pas uniquement Florac, mais en tout cas une des premières, la première orientation, c'est de pouvoir développer une offre de logement attractive et adaptée aux besoins du territoire. Donc, notre deuxième orientation, c'est d'agir pour un territoire vivant et dynamique à l'année, comme je le disais. La troisième orientation qui répond aussi à cette problématique de la mobilité, c'est pouvoir encourager une mobilité durable et inclusive. Et puis puis cette quatrième orientation, c'est de valoriser le patrimoine bâti. J'en parlais tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai fait une petite digression. Okay. Oui, donc en ce qui concerne Florac, effectivement, donc je disais, il y a ces projets de rénovation énergétique. Donc là, on touche aussi bien aux dimensions environnementales, mais aussi à l'habitat. Pouvoir offrir des logements dignes aux familles qui s'installent. On voit bien les exemples de l'îlot d'Ide, effectivement de ce qu'on peut faire sur du bâti ancien en centre-bourg. La municipalité là s'attaque aussi à l'îlot Puel, un autre îlot en cœur de ville, enfin en cœur de village. Là, c'est vraiment, il y a une volonté très forte en tout cas d'agir sur cette les projets avec cette dimension là, donc de rénovation énergétique. Il y a aussi un projet sur l'école. Un projet vraiment très global, de long terme, mais avec une vraie valorisation pour l'école, que ce soit au niveau énergétique, mais même d'aménagement. Donc ça, c'est vraiment un projet très ambitieux. La municipalité aussi a mené une réflexion aussi sur sa circulation au sein du centre-bourg. Et là, justement, elle est dans la démarche de consulter les habitants.
Tiens, auditeur, auditrice, à l'occasion de glisser que ça se passera jeudi 5 octobre à l'amphithéâtre de Supagro à partir de 17h30 sur justement le sens de circulation de l'avenue Jean Monnet.
Exactement.
Qui est un problème aussi que j'entends parler depuis très longtemps, donc c'est très bien que ça arrive.
Effectivement, la municipalité y réfléchissait depuis déjà quelques années et je pense que c'est bien de pouvoir pouvoir passer à l'action et en impliquant la population.
Oui, je suppose aussi qu'il y a d'autres projets sur Meyrues ou sur...
Oui, c'est vraiment sur... Alors, je ne sais pas si tu souhaites que je te donne des exemples.
Avec plaisir, si tu les as, vas-y.
Oui, très bien. Meyrues, alors pareil, il y a de la réhabilitation de logements en centre-bourg, pouvoir de nouveau accueillir des familles. Comme je disais, c'est ce qui manque cruellement sur le territoire. Donc là, il y a un beau projet aussi qui se fait en centre-bourg. Et puis aussi là, je parlais de sites patrimoniaux. On a le magnifique château de Roquedol sur Meyrues. Là, il y a une vraie volonté aussi de la municipalité de pouvoir valoriser ce lieu et pouvoir aussi faire en sorte que ce soit un lieu qui soit ouvert au public à l'année, qui soit visité, qui soit vu. Donc il faut pouvoir aussi trouver derrière une activité économique à pouvoir installer au sein de ce site. Donc et là justement on mène des études pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est des études d'opportunité, de faisabilité en fonction des projets qui sont explorés. Sur les autres communes, il y a aussi de très très beaux projets.
Saint Capitulaire à Saint-Émile.
Oui, c'est ça. Même c'est vraiment tout le monastère. Aussi un très beau projet, un peu à l'instar du château de Roquedol à Meyrues. Il y a ce projet-là, effectivement, de valoriser aussi le monastère Saint-Enémy, qui est un petit joyau de la commune et même pour tout le territoire. Donc, effectivement, pareil, là, trouver que faire de ce lieu, quel devenir lui donner. Là aussi, la volonté de pouvoir en faire un lieu ouvert au public, qui s'y passe des choses à l'année. C'est un idéal, maintenant, il faut pouvoir soit l'atteindre ou en tout cas s'en approcher. Et puis là, pareil, comme pour le château de Roquedol, l'idée, c'est aussi d'associer la population à la réflexion. Donc là, il y a aussi un accompagnement qui regroupe à la fois des élus, des techniciens du territoire, mais aussi des acteurs du monde culturel, des habitants de la commune. Donc ça, c'est une démarche aussi très intéressante.
Et d'ailleurs, nous, avec Radio Barthas, on participe pour le monastère à la salle capitulaire de Saint-Enémy.
Oui.
C'est grosse journée où on est tous réunis. Et justement, parlons et rentrons en concret, l'implication des habitants, tu l'as abordé.
Oui.
Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous les contactez? Vous leur envoyez un courrier, un mail en leur disant, il se passe ça? Comment vous les impliquez concrètement?
Alors, c'est vrai que je pense que c'est vrai que les élus aujourd'hui sont vraiment dépositaires de l'intérêt collectif, mais il y a y a vraiment, on sent bien une envie de la part de la population et des habitants de pouvoir s'impliquer dans les projets, de pouvoir donner leur avis. Et ça, je pense qu'effectivement, les élus en ont conscience. Donc, il y a différentes façons, voilà, de pouvoir impliquer la population. On en parlait là pour le projet de plan de circulation, enfin, projet de circulation à Florac. Et donc là, bah, il y a différentes façons. Typiquement pour le monastère à Saint-Enémy, je parlais d'un accompagnement. En fait, c'est un accompagnement de l'ADEFPAT, qui est vraiment bien structuré. Alors l'ADEFPAT, c'est un organisme qui justement accompagne aussi bien les collectivités, mais aussi les privés dans ce type de démarche, c'est-à-dire voilà, c'est souvent relié à l'activité économique, les accompagner à avoir une réflexion structurée, de savoir en tout cas sur la partie porteur privé, je suis moins calée, mais en tout cas pour les collectivités que j'accompagne, l'idée c'est vraiment ils ont c'est le concept d'accompagnement formation en fait. Donc on a un consultant qui est recruté par l'ADEFPAT et qui va animer en fait la réflexion que va mener le groupe de travail qui est constitué. Donc comme je disais, des élus, techniciens, habitants et de différents secteurs. En l'occurrence, pour le monastère, c'est le secteur culturel. Et là, oui, typiquement, c'est souvent, oui, soit par email ou soit notre territoire est un petit territoire, on se connaît tous, voilà. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Et c'est ce qui fait la force aussi de notre territoire, c'est que tout de suite, on arrive à créer des connexions. Et je le vois que ce soit parce que pour le château de Roquedol, le projet avait pu bénéficier du même accompagnement. Donc, j'ai déjà eu une première expérience et je vois toutes ces connexions, ça crée quelque chose d'assez extraordinaire, aussi bien pour le projet lui-même, mais en fait pour le territoire, parce que c'est des liens qui se créent. Et c'est ça qui, moi, m'anime d'ailleurs dans ma mission, c'est de créer de la synergie entre toutes ces personnes, créer du lien et pour après que de belles choses puissent sortir de toutes ces réflexions.
On vous en reparlera de la salle capitulaire, évidemment, oui. Sur cette antenne. C'est un projet qui va prendre quelques mois, voire années, c'est sûr. Et pareil pour la DEFPAT, on les recevra sur cette antenne, François, Virginie et Marine, que je salue. Alors, ça passe évidemment par les commerçants.
Oui.
Ce qui ne doit pas toujours être évident, hein, puisque, bon, sans les blâmer, hein, ils doivent y trouver aussi un intérêt. Comment, alors, c'est l'occasion aussi de saluer Thomas, qui est manager de commerce, oui. Et qui s'occupe des commerçants ici à Florac. Comment, justement, concilier leur intérêt et l'intérêt commun?
Bien sûr, je pense que c'est indéniable, hein, le tissu commercial, mais aussi artisanal et industriel de notre territoire participe à rendre aussi ce cadre de vie attrayant et dynamique. Et je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est essayer de le maintenir, le pérenniser et faire en sorte aussi qu'il s'adapte aussi aux changements qu'on vit tous, hein, que ce soit le changement climatique, mais économique et social. Donc, c'est hyper important. C'est pour ça que le travail qu'effectue Thomas est capital. Je pense que c'est hyper important de faire aussi bien, voilà, avec les commerçants, les artisans, parce que c'est eux qui portent aussi l'activité économique de notre territoire. Donc oui, on essaye, en fonction des projets, de pouvoir les impliquer. Il y a toujours ce lien, de toute façon, voilà, Thomas et moi, nous travaillons ensemble, donc on échange énormément, de voir comment qu'on nourrisse mutuellement nos missions. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
En tout cas, j'ai bien compris. Oui, c'est ça, nourrir des réflexions entre toi, ton travail et forcément le travail de Thomas. Et puis, on pense notamment, si on parle de concret, on pense à l'embuscaf ici, place de la mairie, en fait, puisque c'est un appel à projet qui avait été lancé par la mairie et que Cynthia a repris. Et puis, aujourd'hui, quel plaisir de revoir la place de la mairie vivre comme elle vit.
Tout à fait d'accord. Mais je vous invite à inviter Thomas qui sera aussi expliquer tous les projets qu'il a pu entreprendre et justement aussi pour créer, et ça je trouve ça super, aussi du lien entre commerçants, je pense que c'est super important, même si je pense qu'il existait déjà, bien sûr, mais voilà, de le renforcer, d'explorer de nouvelles façons de faire ou essayer de se poser aussi des questions ensemble. On voit bien que le faire ensemble apporte énormément.
C'est sûr.
Donc je pense que ça a aidé. Je pourrais pas parler à la place des commerçants, mais je pense que ça apporte quelque chose en tout cas.
On recevra Thomas avec plaisir dans quelques semaines sur cette antenne. Qui dit revitalisation dit mobilité. On l'a abordé, c'est un des problèmes majeurs de notre territoire, hein, évidemment. Alors commençons simplement. Est-ce que une part de ton travail consiste aussi à penser aux personnes à mobilité réduite?
Bien sûr.
Alors comment concrètement c'est possible de mettre des choses en place? On voit ici à Florac la complexité d'un fauteuil roulant, mais et même une poussette, quoi. Enfin, c'est un peu galère. Donc, concrètement, comment ça se passe dans ton travail pour essayer, tenter d'améliorer tout ça?
Bien sûr. Déjà, d'où, enfin, on parle de Florac, effectivement, ça vient de là aussi, le projet de
Jean Monestier.
Voilà, de l'avenue Jean Monestier. Il y a vraiment une volonté de pouvoir sécuriser. Ça, c'est le premier objectif, sécuriser tous les usages de cette avenue, donc notamment piétons. Mais quand on pense aux piétons, c'est aussi les personnes à mobilité réduite, comme tu parlais aussi de familles avec des poussettes. Donc, ça vient de là. Alors, c'est sûr que nos communes, elles ont une configuration qui fait que ça rend les choses difficiles. On peut pas pousser les murs. mais clairement, c'est en tout cas à avoir en tête à chaque fois qu'on pense à un projet. Je pense à la rénovation aussi de la réhabilitation de logements ou de bâtiments. Ça aussi, c'est à garder en tête. Donc oui, je pense que les élus, en tout cas, on en conscience. Après, pouvoir faire avec les contraintes du territoire, mais clairement, c'est aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est clair. Eh ben, espérons que ça s'améliore. Est-ce que là, pareil, Meyrues ou Gorge Cossène ont la même problématique?
Ou Gorge du Tarn-Cos?
Gorge du Tarn-Cos.
Oui, pas de souci. Et il y a Hispaniac aussi. Hein, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas abordé de projet d'Hispaniac. Il y en a de très beaux et avec de bels exemples, ouais, de projets. En tout cas, oui, c'est commun à toutes les communes, toutes les collectivités. Parce que, comme je disais, il y a des questions aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction. Les questions d'environnement, enfin, les questions environnementales, sociales et économiques. On vit des crises aujourd'hui, ce serait, voilà, on peut plus... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à ça et il faut pouvoir faire avec.
C'est sûr. D'ailleurs, on recevra aussi Fleur. On la reçoit une fois par an, Madame le maire, pour faire une photo des projets effectués et super. À faire. Et ouais, c'est vraiment sympa de parler vraiment avec des élus sans trop de langue de bois.
Oui,
c'est... Puis vraiment de parler et de rentrer dans le concret. Alors justement, parlons d'Hispaniac puisqu'on n'en a pas parlé. Et quels sont les beaux projets qui sont faits là-bas?
À Hispaniac aussi, oui, une municipalité avec des projets aussi ambitieux. On a notamment, un gros projet effectivement majeur pour la commune, c'est la requalification de la voie principale, la rue Royale.
En tout cas, il y a le troquet qui s'appelle le Royal.
Donc oui, voilà, c'est ça, effectivement. Cette grande traversée qui est effectivement en très mauvais état, qui en plus, n'est pas du tout sécurisée pour les piétons. Donc là, l'idée, c'est vraiment de la requalifier, la revaloriser. Quand on passe à Hispaniac, on traverse cette grande rue et on prête pas forcément attention à justement au village ancien, enfin la partie ancienne du village qui est magnifique. Et là, l'idée, c'est vraiment essayer en fait d'entrecouper cette traversée en fait et de permettre aussi des passages perpendiculairement à cette traversée. Voilà, c'est un peu difficile d'expliquer, mais et en fait d'attirer en fait que ce soit les habitants qui vivent voilà dans le village, mais aussi les visiteurs puissent être attirés sur cette partie ancienne qui est belle. Il y a vraiment de très très jolies choses à voir à Hispaniac. Donc ça, gros projet effectivement. Pareil, la commune y réfléchissait depuis déjà un certain nombre d'années. Il se lance, donc ça, c'est un projet pour a priori l'année prochaine. Devrait se mettre en œuvre l'année prochaine. La commune, elle réfléchit aussi elle a le souhait d'accueillir aussi sur certaines de ses parcelles un projet d'habitat inclusif, pareil à destination plutôt des personnes âgées. Alors ce qu'on entend par habitat inclusif, c'est une forme d'habitat un peu alternative entre l'habitation où on se retrouve un peu isolé dans son habitation et aussi la vie dans un établissement style EHPAD. Et en fait, permettre, trouver une alternative pour ne pas être isolé et pas non plus rentrer dans le système EHPAD. Donc là, c'est un beau projet aussi. Et pareil, elle réfléchit à, quelles sont les attentes et les besoins pour ce type d'habitat. Justement, garder quand même des espaces, avoir un logement privatif, mais en même temps avoir des espaces partagés pour avoir essayé de mettre en place un projet de vie sociale entre tous les habitants qui habiteront dans cet habitat-là. Ouais.
En fait, c'est un lieu où les personnes seront totalement autonomes, auront leur chez eux, cuire un petit resto.
Une salle commune où ils peuvent se retrouver. C'est vraiment, souvent, les personnes âgées, elles se retrouvent dans des maisons qui sont trop grandes, difficiles à entretenir. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un habitat qui soit de taille plus... qui conviennent plus facilement en mode de vie. Quand on vieillit, on peut pas forcément entretenir une maison, c'est compliqué. Mais et en même temps, c'est pas se retrouver en collectivité et vivre avec un partenaire. On garde sa chambre, son salon, son
sa cuisine.
Voilà, exactement. Mais en même temps, on a aussi besoin dans ces cas-là, parce que on peut se sentir isolé, mais quand on vit justement dans ces grandes maisons, et là, avoir ces espaces partagés et vivre avec d'autres, des moments agréables, des moments conviviaux. Donc, municipalité de travail. Il y a d'autres projets aussi, bien sûr, aussi de rénovation énergétique. C'est vraiment quelque chose de très fort qu'on retrouve aussi dans les autres communes. La rénovation énergétique de bâtiments communaux et de logements communaux. Et puis, oui, aussi un beau projet d'éco-quartier. Pareil, avec une envie de, à la fois d'avoir un habitat partagé, participatif. Donc là, pareil, ce serait avec des logements privatifs, mais pareil aussi avec des espaces qui seraient partagés. Donc il y a vraiment cette volonté de connexion, de lien social, de reconnecter aussi le village avec la nature, en fait, et puis avec son histoire, son patrimoine. Donc quand je parlais justement du centre ancien, de beaux projets. J'en aurais d'autres, mais...
Ouais, c'est sûr. Est-ce que les moyens sont suffisants? Aujourd'hui, c'est toujours la même question.
Oui.
Je sais, je connais un peu la réponse, mais est-ce qu'en tout cas, le projet donc Petite Ville de Demain se donne les moyens de ses ambitions, en fait?
Oui, alors c'est vrai, comme je disais, et ce programme apporte essentiellement un soutien en ingénierie. Donc on va pas pouvoir financer tous les investissements que les communes s'engagent à faire à travers les projets, mais je pense que ce soutien en ingénierie, il apporte aussi déjà énormément. Je le vois. Enfin, c'est vrai que nos communes, elles sont pas toutes structurées de la même manière. C'est vrai que Florac est déjà une plus grande commune avec des équipes déjà un peu plus structurées. Enfin, en tout cas avec un certain nombre de techniciens qui travaillent sur les projets. Ceci étant dit, ça reste, c'est jamais suffisant, surtout quand on a des gros projets ambitieux. Et je vois bien que, en tout cas, mon poste, celui de Thomas, permet en tout cas d'avoir une personne dédiée aussi à monter, à suivre des projets, à les accompagner. Je suis bien sûr pas seule, on travaille toujours, on travaille ensemble avec les élus, avec aussi les agents des municipalités, je pense aux secrétaires de mairie. Et ça, pouvoir avoir... une personne en plus qui va dédier du temps, c'est précieux. Parce qu'on voit bien, je vois bien que les élus, c'est une mission pas évidente. Il y a beaucoup de choses à gérer. Parfois, c'est des personnes qui travaillent aussi à côté. Le temps est précieux et je sais ce que peut apporter le temps et puis l'ingénierie de projet, pouvoir les accompagner sur structurer les projets, ça c'est ce qu'apporte le plus. Alors malheureusement, effectivement, je n'ai pas une mallette avec moi, j'aurais bien aimé,
c'est pas la seule, je pense.
Voilà, c'est ça. Après, je suis là aussi, c'est structurer des projets, mais c'est aussi les accompagner dans la recherche de financement, tout ce qui est demande de subvention. On sait que c'est aussi des dossiers qui sont lourds,
fastidieux,
mais qui sont nécessaires. C'est une procédure à suivre, donc je suis aussi là pour les accompagner sur ça et les aider à pouvoir parvenir à avoir le plus de financement possible sur leur projet.
Pour conclure, Zina, notre territoire, c'est quand même vraiment un territoire qui est attractif, on l'a vu à plein de niveaux, et à l'avenir il n'en sera que meilleur.
Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, je l'espère. Et on œuvre tous. C'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas abordée, mais je parle beaucoup de ce travail en collaboration avec les municipalités, mais je l'ai un peu abordé sur certains projets. Il y a un vrai travail aussi avec tous les acteurs du territoire. Et ça, je trouve, je viens pas de la Lozère, mais je trouve que c'est aussi ce qui caractérise notre territoire. Il y a une vraie, quand je pense aux acteurs, je pense au PETR, la communauté de communes, au Parc National des Cévennes, il y a le CAE aussi qui fait un super travail, et en fait, on arrive à combiner nos forces tous ensemble et à essayer d'avancer ensemble. Et je trouve qu'il y a une vraie collaboration, c'est ça aussi qu'apporte le programme, c'est une recherche, il y a une dimension partenariale très forte, et d'ailleurs c'est ce qui me plaît énormément, et on essaye d'avancer ensemble, et donc je tiens aussi à saluer le travail de tous ces acteurs sur le territoire, qui est précieux.
Et pour les avoir rencontrés plus d'un titre sur cette radio, ce sont des gens passionnés plus, et faisons des ponts.
Clairement.
Et quelques murs pour habiter dedans quand même. Merci beaucoup, Zina.
Merci à toi, Ben.
Chef de projet Petite Ville de Demain pour la communauté de communes Gorges-Causses-Cévennes. Cette antenne est toujours ouverte. Si jamais tu as un projet duquel tu veux parler, tu es la bienvenue quand tu veux.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec Marion du Campus Connect. Eh ben, restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Orelsan, le morceau s'appelle La Quête. Restez bien, il se dit sur nos ondes, on y est bien et bonne semaine à vous. Ciao.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête.